Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure du débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, des grandes voix à distance, comme nous tous, finalement, depuis chez eux. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Dutheil, chef du service Économie d'Europe 1. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Je suis heureuse de vous retrouver à distance. Je ne vous vois pas, mais on entend le sourire dans la voix, la conviction, l'engagement. On est heureux de vous retrouver. Je vais me tourner vers vous, enfin, si je puis dire, Mickaël Darmon, pour démarrer, parce que Isabelle Mier nous le disait il y a quelques secondes à peine, le gouvernement prévoit d'instaurer un état d'urgence sanitaire, un nouveau dispositif qui permettra quoi ? Expliquez-nous ce que cela veut dire précisément.
Eh bien, ça permet de donner un cadre légal et juridique à toutes les mesures donc de restriction, d'interdiction et de mobilisation et de réquisition qui sont faites pour pouvoir donc justement gérer toutes les consignes. Parce qu'on a bien vu que les mesures qui ont été énoncées de façon assez générale par le président de la République, puis ensuite détaillées par donc les ministres concernés, doivent trouver un cadre juridique parce qu'il s'agit bien quand même d'une forme, et c'est le terme qui va être maintenant employé, d'un état d'urgence sanitaire, mais qui oblige à restreindre des libertés publiques. Et cela, comme nous sommes dans une démocratie en France et qu'on ne fait pas n'importe quoi, eh bien tout cela est encadré par un texte qui va être voté donc par les assemblées de façon assez accélérée, dans un format réduit, hein, pour cause évidemment de circonstances en termes de présence de parlementaires, mais vendredi normalement, après la navette du Sénat, avec le Sénat, eh bien ce texte doit être voté. Il comprend également un volet concernant, et on va bien sûr le détailler, j'imagine, les dispositifs économiques et sociaux. Donc c'est pour encadrer de manière légale l'état d'urgence sanitaire, puisque maintenant les termes sont prononcés, on sentait bien que c'était ce qui était évidemment en route, mais maintenant ça va être légalement et officiellement installé.
Donc là, d'ici la fin de la semaine, hein ?
Oui, d'ici vendredi, avec la navette, avec le Sénat. J'ai parlé avec des sénateurs aujourd'hui, ils se sont entendus pour arriver à un vote conforme, ils vont faire quelques remarques, mais globalement, il n'y a pas de volonté de bloquer la part du Sénat. On est dans la logique de l'Union nationale et de l'état d'urgence sanitaire qu'il faut légalement encadrer.
Je vais me tourner maintenant vers Ève Roger, décidément, hein, on prend des habitudes, on a du mal à les lâcher. Ève Roger, je voudrais qu'on aille sur un point ce soir qu'on entendait comme ça là déjà depuis plusieurs jours. On se disait non, c'est pas possible, c'est pas la réalité. Le tri des patients, on l'a entendu dans le journal d'Isabelle Millet à 18h, cette question qui se pose en fonction de des possibilités que vont avoir les soignants en termes de place, en termes de réanimation, s'imposeront peut-être à eux, effectivement, de choisir qui on doit sauver.
C'est vous l'avez dit, là. Même dans le Grand Est, Arthur Mbaché nous l'a rappelé, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le tri des patients ne se fait pas encore, on accueille tout le monde et on soigne tout le monde, d'où ce déploiement des dispositifs pour envoyer dans le sud des personnes qui ont besoin de réanimation. Donc effectivement, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on s'y prépare, parce qu'on a entendu ce qui s'est passé en Italie, on s'y prépare et c'est pour ça que la Direction Générale de la Santé a préparé un texte pour essayer d'expliquer aux médecins qui n'ont pas l'habitude de le faire. C'est-à-dire que ça se fait aussi couramment dans tous les grands CHU de France. On sait qu'une personne qui a 80 ans, qui est en phase terminale d'une maladie, ça sert à rien de la mettre en réanimation parce qu'elle ne s'en sortira pas vivante. Donc c'est une situation qui existe. Et là, c'est vrai que peut-être des médecins qui n'ont pas l'habitude vont se retrouver face à ces situations avec effectivement cette création. Alors nous, on entend parler de ça pour la première fois, mais je pense que tous les médecins connaissent le score de fragilité entre 1 à 9 qui permet de savoir si quelqu'un peut sortir vivant et si la réanimation peut être bénéfique à quelqu'un.
Voilà, c'est des choix évidemment, c'est l'éthique, la philosophie là désormais qui est en question et c'est évidemment là aussi totalement inédit pour les soignants. On va y revenir. Je voudrais faire un tour de table en quelque sorte, même si je ne sais pas autour de quoi vous êtes installés là précisément, les uns les autres. Emmanuel Dutheil,
voilà. Donc je suis bien autour de la table.
Bien autour de la table, bien assis, bien calé. J'entendais, j'étais avec Jean-Baptiste Djebari tout à l'heure, il y a quelques secondes en ligne, le secrétaire d'État au transport, Emmanuel Dutheil. On entend la colère des routiers, on voit qu'il va continuer à y avoir du trafic aérien, du trafic train, métro, parce qu'il ne s'agit pas de bloquer non plus les gens. Il y a tout ça avec toute la sécurité qui va avec. Il y a aussi cette sécurité qui se pose, ce droit de retrait aujourd'hui, typiquement, que réclament de plus en plus un certain nombre de salariés dans beaucoup d'entreprises, les livreurs par exemple, et puis chez Amazon aussi.
Oui, il faut voir, il y a deux choses importantes. Ça monte effectivement. Alors déjà, peut-être rappeler ce qu'est le droit de retrait. Oui. Le droit de retrait, c'est quand un salarié, parce que c'est obligatoirement nominatif, ça peut être fait qu'à titre personnel, estime qu'il y a un problème pour sa santé, pour sa sécurité sur son lieu de travail. Il exerce donc ce droit de retrait qui lui permet de ne pas aller légalement au travail. Alors oui, il y en a de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus de questionnements. Un grand groupe énergétique français m'a dit que ça commence un peu à bouillonner, ça bruisse chez nous des inquiétudes, parce que il y a tous les salariés obligés d'aller travailler dans les secteurs dits indispensables. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les stations-service, c'est vrai par exemple pour les péages autoroutiers. On l'imagine pas, mais il faut bien quand même quelques personnels pour permettre à ceux qui doivent encore circuler de passer par exemple les barrières des autoroutes. Alors c'est vrai que du côté de ces secteurs, il y a des inquiétudes qui commencent à poindre. On entend deux choses beaucoup monter, notamment ceux qui sont obligés d'aller dans les usines, qui disent mais c'est bien gentil, nous, on doit travailler dans les usines, on n'a pas de masque, parce que les masques sont réservés pour les personnels hospitaliers. On entend aussi certains dire, bah, c'est plus facile pour les cadres. Eux, ils sont en télétravail, ils sont chez eux, ils sont protégés, ils sont confinés, mais nous, on doit y aller. Donc ça, c'est vraiment un point. On sent qu'il y a une inquiétude. Après, il faut raison garder. Pour le moment, tous ces secteurs stratégiques, ces secteurs indispensables tournent. La poste tourne à peu près convenablement. Il y aura pas de pénurie du côté d'EDF. Vous aurez de l'essence. Mais c'est vrai que, par exemple, rien que sur le secteur de l'essence, on peut prendre un petit exemple. Bah, quelques stations indépendantes vont fermer. Elles ne voient plus personne. Elles n'ont pas de personnel également qui veulent travailler, parce qu'il y a, selon eux, des risques à chaque fois qu'ils sont confrontés à un client.
On va revenir sur la question qu'on se posait avec vous, Ève Roger, il y a un petit instant. Pour le moment, la situation liée à l'épidémie est gérable dans la plupart des établissements de santé, mais certains hôpitaux sous tension pourraient peut-être, même rapidement, devoir faire des choix. Et on est en ligne avec vous, Raphaël, depuis Marseille. Bonsoir. Vous êtes médecin réanimateur.
Bonsoir.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, bonsoir.
Merci de nous avoir appelé au 3921 et n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler nombreux au 3921, hashtag radio ouverte aussi sur Twitter pour nous livrer vos témoignages. Vous, Raphaël, aujourd'hui vous êtes exsangue, on l'imagine aisément. Comment ça se passe dans l'établissement dans lequel vous opérez ?
Alors aujourd'hui, en fait, la situation est différente selon les différentes zones en France. Hein. Donc nous, on n'est pas encore dans une situation comme on peut voir dans le Haut-Rhin ou en Île-de-France. Voilà. Donc nous, pour le moment, sur Marseille, on est en mesure d'accueillir des patients en réanimation.
D'accord. Vous êtes en mesure. Voilà. Et aujourd'hui, il y a cette question que les professionnels de santé se disent, voilà, choisir entre deux patients, je ne peux m'y résoudre. Par exemple, un de vos confrères de la Pitié-Salpêtrière s'inquiète de cette pression qui repose sur les équipes des soignants. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Nous, ce qu'on dit, c'est que là, c'est une situation épidémique, hein, donc que le président de la République a assimilé une situation de guerre. Hein, donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, une situation de triage où on est obligé de proposer des soins aux patients qui pourront en bénéficier. Voilà. Donc après, nous, on est en tant que réanimateur, ça nous arrive d'être confrontés à cette situation parce que il arrive que les réanimations soient saturées. En dehors des périodes de pandémie comme celle qu'on connaît actuellement.
Vous, juste, pardonnez-moi, Raphaël, mais j'insiste, avec la progression de l'épidémie, pensez-vous devoir choisir, même si vous nous dites qu'aujourd'hui, à Marseille, vous arrivez, vous n'êtes pas comme dans l'Est, totalement étranglé, j'allais dire, vous pensez, vous, devoir choisir dans quelques semaines, peut-être, entre un patient de 15 ans et un de 60 ans ?
C'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on espère ne pas avoir à le faire. Et l'autre chose qui est certaine, c'est que l'âge en soi n'est pas un critère unique de choix entre deux patients.
C'est ça. Oui.
Voilà. Il n'y a aucun réanimateur qui choisit juste entre un patient de 15 ans et un patient de 60 ans. Et en fait, toute la montée en puissance là, actuellement du service public vise à ne pas avoir ces choix à poser. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'on a même transféré là, par avion militaire 6 patients de Mulhouse et Colmar vers les hôpitaux militaires de Toulon et l'Aveyron.
Exactement. Bon, on a vu la situation de Nancy dans le Grand Est et on tire sur place la sonnette d'alarme et pas seulement. Merci beaucoup Raphaël de nous avoir appelé depuis Marseille. Voilà. Médecin réanimateur, on vous souhaite évidemment à vous et à tous les soignants beaucoup de courage et on est évidemment avec vous. Vous êtes essentiel aujourd'hui plus que jamais. Merci à vous. On va se retrouver dans un petit instant. On pourra revenir là-dessus évidemment Ève Roger parce que c'est une vraie question éthique aujourd'hui. Michaël Darmon, Emmanuel Duteil, les grandes voix de ce mercredi. À tout de suite.
Europe 1, Émilie Mazoyer.
Je vous donne rendez-vous tous les soirs de 20h à 22h pour musique. Mais quelle musique, me direz-vous ? Toutes les musiques, vous répondrai-je. Mes découvertes, vos coups de cœur et les chansons de nos invités.
Écoutez Le Monde Changer avec Émilie Mazoyer.
Alors à ce soir, dès 20h sur Europe 1.
Messieurs, s'il vous plaît, revenons au sujet. La fiscalité auto en 2020. Éclairez-nous. Quelle voiture choisir pour ne pas être taxé ?
La solution, c'est l'Outlander hybride rechargeable de Mitsubishi. Pas de malus, éligible à la prime à la conversion, des économies sur la carte grise, le stationnement et même la TVS quasi nulle pour les pros.
Luc, un autre choix ?
Pas mieux. SUV 4 roues motrices, électrique, mais sans contrainte, l'Outlander de Mitsubishi est abordable et garanti 5 ans. C'était l'hybride rechargeable le plus vendu en France en 2019. Mitsubishi, le choix est fait.
Source Château Dynamics.
Vous êtes en charge du recrutement dans votre entreprise ? Indeed a des solutions pour vous, comme les questions de présélection qui vous aident à établir rapidement une liste des meilleurs candidats. Et aussi notre maître Zen qui viendra faire léviter les meilleurs d'entre eux.
Excusez-moi, mais ça marche pas en fait.
Non.
Ok, pas besoin de maître Zen.
Mais des questions de présélection, c'est certain. Plus de 150 000 entreprises en France font appel à Indeed pour recruter. Postez votre offre d'emploi sur indeed.fr/radio et essayez gratuitement les questions de présélection. Les conditions générales s'appliquent.
Vous écoutez votre grand journal du sport sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Le débat des grandes voix jusqu'à 19h avec ce soir à distance depuis chez eux. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Michaël Darmon, éditorialiste, Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1. Et puis toutes vos réactions sur le hashtag Radio Ouverte, évidemment, et au 3921. Et je vous rappelle que tous les bénéfices du 3921 sont reversés à l'Institut Pasteur, Nathalie.
Et les grandes voix, Ève Roger, Emmanuel Duteil, Michaël Darmon. Ève Roger, vous avez entendu hein, depuis Marseille, Raphaël, il y a quelques instants, médecin réanimateur. Oui. Dans le Grand Est, on a tiré la sonnette d'alarme déjà depuis quelques jours. À la date d'aujourd'hui, mercredi 18 mars, il n'y a pour l'instant que quelques points de saturation, notamment dans le Grand Est.
Oui, dans le Haut-Rhin en ouais. particulier, c'est là où la situation est la plus tendue, parce qu'en réanimation, il y a à peu près 200 patients, peut-être un peu plus. Et en France, il y en a 700. Donc, vous voyez, il y a un tiers, je ne suis pas très bonne en maths, mais à peu près un tiers qui sont là-bas, dans un seul département. Donc, ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le comité d'éthique, le comité national d'éthique, a demandé que dans chaque hôpital, chaque structure hospitalière, il y ait un petit regroupement de médecins, peut-être deux ou trois, pour que chaque situation soit étudiée à plusieurs, pour éviter justement que porte sur les épaules d'une seule personne un choix si difficile. Et ça, c'est important que chacun, qu'on puisse discuter entre soi, entre professionnels de santé, pour savoir quels sont les meilleurs choix, pour soulager aussi la décision individuelle.
Je vais revenir vers vous, Michaël Darmon, maintenant, oui. Parce que il y a des questions aujourd'hui sur les réformes, réformes suspendues, réformes enterrées. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, même peut-être. C'est une espèce de grand brouillard aussi là chez nos dirigeants, alors qu'il est.
Oui, puisque maintenant le propos général, on va dire l'enseigne générale de la vie publique et des politiques publiques, c'est l'état de guerre, l'état d'urgence sanitaire, nous sommes en guerre et la suspension des réformes. Tout est mis de côté, pour pouvoir consacrer toutes les énergies. On l'entend bien dans tous les étages de l'exécutif, hein, comme vous le voyez aussi, pour pouvoir lutter contre cette épidémie et mener cette bataille, faire sortir les Français de cette période compliquée. Ce qui veut dire qu'on l'a bien compris que tous les dogmes de rigueur budgétaire, c'est terminé. On ouvre toutes les vannes, tous les robinets sont ouverts. À l'instant même, on a annoncé, Bruno Le Maire a annoncé le déplacement du chômage partiel. Et surtout, ouais. vous l'avez dit, les réformes suspendues ou enterrées. Tel que l'on regarde maintenant le calendrier et tel que l'on voit la situation politique, imagine-t-on hein, comme dirait l'autre. Imagine-t-on de revenir en juin, juillet, avec le débat des retraites au Sénat, qui s'annonçait être extrêmement difficile, avec une conférence de financement qui devait financer, caler le financement du système des retraites, mais sur des hypothèses de croissance qui auront totalement explosé. Imagine-t-on cela ? Non. Donc, en fait, on a quand même le sentiment que progressivement, on va aller en fait vers l'enterrement de ces réformes, en particulier de celle-là, pendant celle qui a tellement cristallisé. Et ça va donner également une autre, une nouvelle, je dirais, dimension à ce quinquennat, puisque Emmanuel Macron voulait absolument, se targuait, voulait absolument que les réformes, les grandes réformes soient prêtes pour 2022. Eh bien, vraisemblablement, ça commence à être très compromis.
Alors évidemment les conditions sont exceptionnelles, voilà pourquoi ce serait très compromis. On verra ce qui se joue évidemment dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce que il y a aussi des couteaux qui sortent, hein, de part et d'autre. On va y revenir dans un petit instant, Mickaël Darmon, mais d'abord il y a des couteaux et puis il y a des mots aussi qu'on avait un peu enterrés qui sont exhumés en quelque sorte. Emmanuel Dutheil, le ministre français de l'économie tout simplement, Bruno Le Maire, il est prêt désormais à voler au secours des grandes entreprises du CAC 40 malmenées en bourse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mot nationalisation est désormais presque d'actualité. Bienvenue. En tout cas, il n'est plus tabou.
Oui, oui. Il l'a utilisé lui-même dès hier en disant qu'il était prêt à tout pour sauver les grandes entreprises et leur permettre de passer cette période extrêmement compliquée et donc de nationaliser. Alors on pense bien évidemment à une entreprise en particulier, c'est le cas d'Air France. Air France est dans une situation totalement cataclysmique. Alors déjà qu'elle n'était pas super en forme avant la crise, mais alors là c'est une crise totalement exceptionnelle, hein. Jusqu'à 90% des vols annulés, ils vont arrêter la quasi-totalité des vols, il faut même parquer des avions dans d'autres aéroports, tellement qu'il y a d'avions à parquer au sol en ce moment. Donc là, c'est un exemple d'une entreprise que l'État pourrait aider, mais il y aura peut-être d'autres exemples, puisque la grande particularité de cette crise, qui n'a rien à voir avec celle de 2008, c'est que là, c'est l'économie réelle qui est touchée, et vous avez bon nombre de très grosses entreprises qui pourtant jusque-là étaient très très riches et avaient les moyens de fonctionner, ne peuvent tout simplement plus faire du tout de business. C'est vrai pour les grands groupes hôteliers, c'est vrai pour les grands groupes de voyage, mais vous avez des pans entiers de l'industrie. Quand vous êtes un Renault ou un PSA et que vous avez vos
Emmanuel,
usines
mais
françaises...
Mais vous avez raison. Et d'ailleurs... ça devient ces grandes entreprises tricolores là dans tous les secteurs possibles et imaginables, de l'automobile en passant par le bancaire, le tourisme.
Mais encore rien qu'aujourd'hui, ArcelorMittal.
Mais du coup, ça devient des proies.
Ça devient effectivement des proies, mais l'avantage ou l'inconvénient de cette crise, c'est que c'est une crise mondiale. Donc le voyagiste qui serait concurrent de notre voyagiste français, il est au moins aussi mal que notre voyagiste français. Le constructeur automobile concurrent de Renault ou PSA, il est au moins aussi mal que notre constructeur. C'est peut-être l'un des seuls avantages de cette crise, c'est qu'au moins ça met tout le monde
sur un pied d'égalité, au même
niveau. Après, il faut voir que, où vous avez totalement raison, Nathalie, c'est qu'on est en train de vivre en bourse une situation totalement historique. La Bourse de Paris a encore perdu ce soir plus de 6%. Au moment même là où on est en train de se parler, la bourse américaine, Wall Street, est en train de perdre 10%. Le monde économique est en train d'être remis à niveau. Alors, on pourrait se dire, par rapport à la conséquence sanitaire, c'est pas très grave et réglons d'abord le sanitaire. Mais c'est un point extrêmement important. C'est historique ce qu'on est en train de vivre. Il a encore fallu suspendre encore aujourd'hui un petit peu Wall Street, tellement qu'il y avait des baisses sur les marchés. Donc vous avez raison, toutes ces entreprises deviennent des proies éventuelles.
Et oui, alors le jour d'après, on en a souvent entendu parler là ces derniers jours, et je vais revenir vers vous dans une seconde, parce que il y a eu la crise financière en 2008, il y a eu la crise bancaire, il y a eu tout l'argent injecté pour pouvoir remettre les banques d'aplomb en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut se passer dans quelques semaines? On va se le dire dans un instant. Ève Roger, je voudrais aussi vous interroger sur le quotidien en fait de nos enfants, de nos élèves, de ces scolaires aujourd'hui, parce que déjà c'est compliqué de les faire travailler à la maison, hein, on va pas se mentir. Je parle en connaissance de cause. Du coup, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a laissé entendre là que le calendrier scolaire pourrait être bouleversé.
Et oui, alors là, on est vraiment suspendu à ses lèvres, mais il va falloir attendre jusqu'aux vacances de Pâques pour savoir si les épreuves du brevet et du bac risquent d'être reportées, parce que c'est effectivement là l'enjeu des prochaines semaines dans l'Éducation nationale. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée, mais aucune décision n'est prise non plus. Donc, reporter, ça voudrait dire... tout est possible, il a dit ce matin. Donc, Ça veut dire, on pourrait imaginer soit que tout le monde passe le brevet et le bac en septembre, mais ça peut être aussi plus tard, ça peut être qu'on peut retarder, repousser la fin de l'année scolaire, et puis raboter un peu sur les vacances d'été, c'est-à-dire peut-être partir en vacances fin juillet, passer le bac fin juillet. On n'en sait rien, tout est possible. Tout ce qu'on sait, et ce qui est sûr et certain, c'est que la décision sera prise au moment des vacances de printemps.
Au début ? On ne sait pas. Hein. Au début,
alors, on ne sait pas, parce qu'il faut avoir une vision de la continuité du confinement. Si ça dure encore 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, ce n'est pas du tout la même
en
chose
tout cas,
que si ça s'arrête dans 15 jours.
Il s'est dit contre une année blanche pour les élèves à ce stade. Ça reste une hypothèse.
Mais là aussi, l'idée de tout reprendre à zéro au mois de septembre, ça semble un peu compliqué. Il y a tellement de situations différentes. Je pense que ils vont faire au maximum essayer de reporter juste et de pas faire une année blanche.
Michaël Darmon, dites-moi, j'ai entendu que Jean-Michel Blanquer ce matin, typiquement, avait réagi sur un autre aspect sur lequel je voulais vous entendre. Je n'ai jamais entendu Agnès Buzyn demander le report des municipales, disait-il quand elle était interrogée au sujet de la polémique lancée par les propos d'Agnès Buzyn, qui a quitté le ministère de la Santé le 16 février pour devenir, on le sait, la candidate à la mairie de Paris pour La République En Marche, et puis qui a raconté là, dans Le Monde, une mascarade pour ses élections, que sur la gravité, en gros, de l'épidémie, elle savait, rien n'a été fait. Je synthétise, hein, bien sûr. Quid aujourd'hui de ce qui se passe autour de ces propos d'Agnès Buzyn dans la famille En Marche ?
Bah, tout d'abord, dans la famille En Marche, on est d'une violence extrême à son égard. Les propos ne sortent pas, mais je peux vous dire que j'ai pu consulter et on m'a raconté quelques messages qui circulent sur les fameuses boucles Telegram qui circulent en haute Macronie où ils peuvent se parler en toute discrétion. Et elle se fait étriller du matin au soir. Tous les termes y passent, désertion, ambition, arrogance, tout ce que vous voulez. Donc déjà, c'est une sidération. Elle a en fait lancé dans son propre camp une bombe à fragmentation. Ça ne fait que commencer. Parce qu'en réalité, tout cela débouchera très certainement sur des conséquences politiques. Bien évidemment, aujourd'hui, au sommet de l'État, on se retient, on ne veut pas vraiment dire ce qu'on en pense, notamment du côté de Matignon, mais par les propos de Jean-Michel Blanquer, on comprend que ça va commencer, les missiles vont commencer aussi à partir, parce que on prend extrêmement mal la manière dont aujourd'hui elle s'est exprimée, peu importe si dans son communiqué de presse et rétropédalage paraît quand même comme dans la tradition des autocritiques un peu de l'époque stalinienne, hein, où tout d'un coup on dit mais non, je regrette, mais enfin elle dit quand même qu'elle maintient avoir prévenu à l'époque
en janvier,
le Premier ministre,
elle a dit.
En janvier.
Ouais.
Mais en tout état de cause, on a quand même face à nous aussi quelqu'un qui au fond dont on ne connaît pas encore vraiment le vrai niveau de sincérité par rapport à ce qu'elle a vraiment voulu faire. On savait qu'elle voulait partir en politique, elle trépignait pour partir en politique, mais ça se passe pas très bien puisque manifestement elle va pas gagner la mairie de Paris. Et là, tout d'un coup, on a un rétropédalage sur la base d'un stress et d'un énorme sentiment de culpabilité.
Vous avez réussi à avoir son entourage un petit peu.
Dans son entourage, bien évidemment, on vous relit le communiqué de presse et on dit voilà ce qui s'est passé. On dénonce aussi un peu la manière dont les propos ont été captés, repris et retranscrits, parce qu'il ne s'agit pas d'une interview en bonne et due forme, mais de propos qui ont été, comme elle a dit, prononcés dans un moment de contexte. On reproche aussi beaucoup à Macronie, enfin en particulier parmi les plus expérimentés, au fond de ne pas avoir la solidité de quelqu'un qui est expérimenté en politique, parce que ce genre de démarche passe très mal.
Ouais. Emmanuel Dutheil, on va voir comment ça évolue, parce que ça va être une crise politique de toute manière et ça va faire évidemment couler beaucoup d'encre. Emmanuel Dutheil, encore quelques secondes avec vous, parce qu'on a parlé nationalisation, on a parlé évidemment de ces bourses qui plongent depuis des jours maintenant et de manière catastrophique. On se souvient donc de la crise bancaire de 2008, on se souvient de ce qui avait été injecté pour refaire partir les banques. On a un peu de visibilité aujourd'hui, on sait par quel moyen on va pouvoir refaire partir, j'allais dire, tout le système, aussi bien financier que...
On a deux crises qui sont totalement différentes, puisque la dernière fois, la crise était venue justement des banques. Le secteur financier avait explosé ce matin. Je pense que comme moi, vous étiez tous à l'écoute de Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, qui est par ailleurs en ce moment le président de la Fédération bancaire française. Il a bien expliqué la différence entre ces deux crises. Aujourd'hui, les banques ont de l'argent, il n'y a aucun problème. L'État a agi très rapidement, notamment pour les prêts pour les entreprises, 300 milliards d'euros de prêts garantis. Donc ce qu'il faut, et c'est ce qu'essaye de faire aujourd'hui le gouvernement français, c'est de déverser beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible. Dire qu'il n'y en aura pas, c'est un mensonge. Mais faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible. Pour faire quoi? Parce que cette crise, logiquement, une fois qu'elle s'arrête, une fois que l'épidémie est terminée, on va recommencer à consommer, on va retourner au restaurant. Si on arrive à garder nos salaires, on aura logiquement les moyens de reconsommer. Donc ce qu'espère le gouvernement, c'est que ça reparte et que ça reparte fort pour compenser un tout petit peu l'énorme choc que nous aurons connu.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel Dutheil, Ève Roger, Mickaël Darmon. Tiens, Mickaël Darmon, on ne rate pas votre grand rendez-vous. Dimanche matin, 10h sur Europe 1, rendez-vous pris. Vous recevrez Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Première longue interview depuis le premier tour des municipales, depuis aussi le début de cette crise absolument inédite.
Il sort de sa réserve.
Il sort de sa réserve et c'est chez vous que ça se passe. Merci beaucoup.